Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir l'Afrique, ravi de vous retrouver sur La Voix de l'Amérique, à l'écoute du monde aujourd'hui, édition du 26 juin, en direct du studio 13 à Washington. Ici Morgane Guiriec
et Chérubin Dorsil.
Au sommaire ce soir,
la menace djihadiste au centre des préoccupations du 23e sommet de l'Union africaine.
Dans les réunions préparatoires, les ministres avaient ouvertement fait part de leur inquiétude face à la poussée des groupes djihadistes sur le continent.
Les Libyens attendent les premiers résultats des élections législatives.
Alliance entre la Syrie et l'Iran pour contrer les djihadistes sunnites en Irak.
Dans notre segment spécial sur la Coupe du Monde, sans euphorie, le 11 national américain vient de se qualifier pour les huitièmes de finale.
L'essentiel est préservé pour les Américains. Ils sont qualifiés, ils terminent deuxième de ce groupe. Ils rencontreront sans doute la Belgique au prochain tour.
On écoutera notre envoyé spécial Nicolas Pineau.
Le bonheur des Américains fait le malheur des Ghanéens qui sont éliminés de la compétition.
D'abord, le journal.
Ouverture du 23e sommet ordinaire de l'Union africaine à Malabo, en Guinée équatoriale. Les leaders africains sonnent la mobilisation face au groupe djihadiste qui continue les attaques meurtrières du Nigeria à la Somalie. Félix Yepasis Zembro.
Très applaudi pendant la plénière pour le retour de l'Égypte au sein de l'Union africaine, le nouveau président Abdel Fattah al-Sissi a vigoureusement invité ses pairs à faire face avec force au fléau que représentent les islamistes armés. Le thème officiel de cette rencontre de deux jours est agriculture et sécurité alimentaire, mais dans les réunions préparatoires, les ministres avaient ouvertement fait part de leur inquiétude face à la poussée des groupes djihadistes sur le continent. Comme à chaque sommet, Malabo sera aussi l'occasion de rencontres bilatérales pour tenter de régler les nombreux litiges sur le continent. Pour les pays africains francophones, Malabo sera également l'occasion de tractations sur le candidat de l'Afrique à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Le Sénégalais Abdou Diouf achève son mandat de secrétaire général de l'OIF en novembre prochain.
En République centrafricaine, le nord-est du pays échappe progressivement au contrôle des autorités de la transition. Les soldats des forces armées centrafricaines déployés à Birao ont finalement quitté la ville aujourd'hui sous la pression d'un autre mouvement armé dans la localité. Le point avec Idriss Fall.
Il y a une dizaine de jours, près de 113 soldats centrafricains étaient encore à Birao. Ils ont été sommés de vider les lieux par un groupe armé inconnu jusqu'ici et qui leur avait donné 15 jours pour partir. N'ayant eu aucune réponse de Bangui, les FACA ont donc plié bagage. Un officier a même indiqué que plusieurs hommes en armes contrôlent Birao, mais rien n'a filtré sur le nom ou les intentions réelles de ce mouvement. Par ailleurs, la journée a été plutôt calme à Bambari, dans le centre du pays. La MISCA a encore révisé à la hausse le bilan des affrontements depuis lundi, qui serait de 70 morts, et aucune réaction n'a été enregistrée de la part des autorités de la transition.
Législative libyenne, des résultats préliminaires devaient être annoncés aujourd'hui. Malgré une faible participation, les autorités estiment acceptable le déroulement du vote d'hier. Le scrutin a été maintenu malgré les violences et les affrontements entre milices armées. 7 soldats ont été tués hier. À Benghazi, une militante des droits de l'homme a été assassinée. Et à Al-Baïda, une voiture piégée a explosé aujourd'hui près des locaux de l'Assemblée constituante.
Conflit au Soudan du Sud, le nombre de réfugiés dans les bases des Nations Unies a dépassé la barre des 100 000. Un chiffre qui atteste de la détérioration de la situation dans le pays, alerte l'ONU.
Deux soldats djiboutiens de l'AMISOM ont été tués dans le centre de la Somalie. Deux hommes vêtus d'uniformes de l'armée somalienne ont attaqué leur base à Boula Bourdé. C'est ce qu'indique la force de l'Union africaine en Somalie, citée par l'AFP. Il y a eu un échange de tirs et les deux assaillants ont également péri. Les islamistes d'Al-Shabaab ont revendiqué cette attaque.
Arrestation du gouverneur du département de Lamu au Kenya. C'est en réaction au massacre de plus de 60 personnes dans sa circonscription les 15 et 16 juin dernier. Le raid avait pourtant été revendiqué par les islamistes somaliens d'Al-Shabaab. Hier, la police a arrêté 13 membres présumés du groupe séparatiste Conseil républicain de Mombasa. Ils sont soupçonnés de planifier un nettoyage ethnique dans la zone.
Trafic de bébés au Niger. 17 personnes, dont 12 femmes, ont été écrouées aujourd'hui. Elles ont été inculpées de supposition d'enfant, un délit qui consiste à attribuer la maternité d'un enfant à une femme qui n'est pas sa mère, faux et usage de faux et déclarations mensongères. Les nouveau-nés viendraient du Nigeria voisin. Parmi les personnes incarcérées figure l'une des épouses du président du Parlement, Ama Amadou, le principal opposant au président Mahamadou Issoufou.
C'est la lutte internationale, c'est la journée pardon, de lutte internationale contre l'abus et le trafic illicite des drogues. En 2010, le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie et le Niger avaient mis en place une plateforme régionale pour faciliter la coopération judiciaire. 4 ans après, est-ce que cette structure a été efficace dans la lutte contre le trafic de drogue ? Claire Morin-Gibourg a joint à Bamako le magistrat Mamadou Dembélé, directeur des affaires judiciaires du Mali.
Ça permet de coordonner facilement l'exécution des demandes d'entraide que nous faisons dans le cadre des procédures pénales, sans violer nos législations nationales et nos engagements internationaux. Un exemple, dans une affaire qui concernait un Nigérien en République du Mali, par le biais de la plateforme, nous avons pu régler la question en 48 heures. Alors que normalement, si on suivait la voie normale, ben, il fallait attendre près de 1 mois ou 2 mois. On a gagné en efficacité. Oui. Ce serait trop dire en disant que ça s'est amenuisé. Dans tous les cas, on a un vaste territoire au nord. Les frontières sont poreuses. Je peux dire quand même que toutes ces frontières leur servent actuellement, puisque la sécurité malienne n'est pas très présente sur ce territoire, sur cette partie du territoire. Sincèrement, ça n'a pas changé.
Mamadou Dembélé, directeur des affaires judiciaires du Mali.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Syrie et l'Iran se joignent au combat contre les militants islamistes sunnites qui tentent de s'emparer de l'Irak. Pendant ce temps, poursuite des efforts occidentaux pour la formation d'un gouvernement rassemblant toutes les forces politiques et communautés du pays. Lionel Gaïma.
Le premier ministre irakien Nouri al-Maliki a annoncé des frappes aériennes de Damas mardi contre les djihadistes. Il s'en est félicité, tout en précisant qu'il ne les avait pas demandées. De son côté, l'Iran, qui appuie le gouvernement de Bagdad, lui fournit des tonnes d'équipements militaires et a déployé des drones de reconnaissance au-dessus de l'Irak. Les États-Unis ont dépêché des conseillers militaires et effectuent également des vols de reconnaissance. La menace djihadiste a créé une convergence d'intérêts entre Damas, Téhéran et Washington. Par ailleurs, le Britannique William Hague s'est rendu à Bagdad. Selon l'AFP, Nouri al-Maliki jugerait nécessaire une solution politique. M. Maliki aurait dit que pour la formation d'un nouveau gouvernement, le Parlement est convoqué pour le 1er juillet. Et John Kerry, le secrétaire d'État américain, est à Paris pour des consultations avec son homologue Laurent Fabius.
Les États-Unis condamnent l'attentat survenu mercredi dans un hôtel de Beyrouth. Ils s'inquiètent des répercussions au Liban, des conflits en Irak et en Syrie. Michel Joseph.
Le secrétaire d'État John Kerry a dit que les États-Unis condamnent fermement l'attentat, le troisième en une semaine, au Liban. 10 personnes ont été blessées lorsque 2 kamikazes se sont fait exploser simultanément hier dans un hôtel dans l'ouest de Beyrouth. Un groupuscule inconnu nommé la Brigade des Sunnites libres de Baalbek a revendiqué l'attaque. Le kamikaze qui a péri serait Abdel Rahman Nasser al-Shenifi, 20 ans, était recherché par les autorités de Riyad. Selon le ministre de l'Intérieur, Nouhad Mashnouk, l'autre kamikaze blessé, Ali Ibrahim al-Touweini, âgé de 20 ans, était également saoudien. Le Liban, qui accueille plus d'un million de réfugiés syriens, a déjà subi de nombreuses attaques dans les zones dominées par le Hezbollah. Ce mouvement radical chiite a envoyé des combattants pour soutenir le régime de Bachar al-Assad.
En Jordanie, un tribunal a acquitté le prêcheur Abu Qatada, disciple d'Al-Qaïda. Il était accusé d'avoir pris part à la préparation d'une attaque terroriste contre une école américaine à Amman. La cour a décidé aujourd'hui qu'il n'y avait pas assez de preuves contre Qatada. déjà condamné par contumace en 1999. Il a bénéficié d'un nouveau procès l'an dernier après son extradition de la Grande-Bretagne. Abu Qatada doit comparaître dans un autre procès pour terrorisme. Cette fois, la cible était des touristes célébrant le nouvel an en Jordanie en l'an 2000. Il a plaidé non coupable. La justice jordanienne a reporté l'audience au 7 septembre.
Le président ukrainien Petro Poroshenko a demandé aujourd'hui à la Russie de soutenir son plan de paix pour l'Est ukrainien par des actes concrets. Prenant la parole devant l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe à Strasbourg, M. Poroshenko a accusé Moscou d'agression et déploré l'insuffisance du soutien du président Poutine à son plan de paix. Auparavant, le secrétaire d'État américain John Kerry avait déclaré que la Russie devrait, dans les prochaines heures, appeler les séparatistes ukrainiens à déposer les armes. Hier, l'administration Obama avait menacé la Russie de nouvelles sanctions si rien n'est fait pour désamorcer la crise en Ukraine.
La Chine poursuit sa campagne antiterroriste dans la région occidentale de Xinjiang, condamnant 9 nouveaux suspects à des peines de 3 à 14 ans de prison. Parmi les accusations citées, la prédication de la guerre sainte et l'incitation au séparatisme et à la haine ethnique. Cette condamnation collective s'est déroulée en présence d'une foule de 3000 personnes, indique le quotidien du peuple. La semaine dernière, les autorités chinoises avaient annoncé près de 380 arrestations et plus de 315 condamnations durant le premier mois de cette campagne à Xinjiang.
La Cour suprême des États-Unis a infligé une défaite au président Barack Obama en déclarant illégale la nomination en 2012 des dirigeants du National Labor Relations Board sans approbation du Sénat. Le président s'est appuyé sur une disposition constitutionnelle lui permettant d'installer des responsables quand le Sénat est en vacances. La Cour suprême a décidé qu'en absence de moins de 10 jours n'autorise pas une telle mesure. Voilà pour le journal. Morgane Guiriec et Chérubin Dorsil en votre compagnie. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique. Place à la partie magazine de notre émission.
Parlons du 23e sommet de l'Union africaine à Malabo, en Guinée équatoriale, Morgane.
Les chefs d'État africains sont préoccupés par les menaces sécuritaires et le terrorisme. Alors cela va-t-il accélérer la mise en place de la capacité africaine de réponse immédiate aux crises? Cette force militaire doit être opérationnelle en attendant la création de la force africaine en attente, annoncée depuis plus de 10 ans. Claire Morin-Gibourg a rejoint le chercheur Oswald Padanou, spécialisé dans les questions militaires africaines.
Depuis mai 2013, où cette idée de CARIC a été envisagée, jusqu'au sommet de Malabo qui se tient en ce moment, il n'y a pas eu une grande avancée. Déjà, il faut déplorer, disons, l'absence d'anticipation de l'Union africaine. On était parti sur un sentiment d'incapacité par rapport au fait que les États et les organisations africaines n'avaient pas pu appuyer un État africain, notamment le Mali. Dans son effort de reconquête de son intégrité territoriale, il a fallu que la France intervienne. Donc c'est à déplorer, mais en même temps, ce sentiment de culpabilité des acteurs africains a en même temps eu une opportunité. On peut l'interpréter comme un signal positif dans l'appropriation, disons, africaine des crises et des solutions à ces crises-là. Donc, dès le départ, déjà, il y avait des divergences au niveau des États membres de l'Union africaine. Quelques-uns étaient, partis pour... constituer cette capacité africaine de réponse immédiate aux crises. Et quelques autres étaient tout à fait réticents, comme le Nigeria, et ont privilégié, disons, une approche régionale. Donc les discussions ont avancé pendant un an, mais sans qu'on ne puisse faire une synthèse concrète. Mais je pense que le sommet de Malabo, est en train d'aller vers un compromis entre les deux solutions qui sont envisagées, c'est-à-dire une capacité africaine de réponse aux crises qui sera, à un échelon unique au niveau continental, et puis la force africaine en attente avec les brigades régionales qui sont envisagées au niveau de chaque communauté économique régionale.
Est-ce que vous pensez que les armées africaines ont suffisamment de ressources pour pouvoir créer une nouvelle force?
Tout à fait. Vous soulignez une excellente question, une excellente préoccupation. Et je pense que l'efficacité de la CARIC dépendra de tous ces aspects. sa réactivité dépendra d'abord des capacités nationales des États qui sont partis à ce mécanisme-là. Parce que vous le soulignez très bien, au niveau des États membres, la plupart sont confrontés à des difficultés importantes en matière de matériel, en matière de gestion, de gouvernance même de leur système de sécurité. Et je pense que ce sont autant de défis qui doivent être relevés déjà à l'échelle nationale pour que, à l'échelle continentale ou même au niveau régional, pour qu'on ait des capacités suffisamment solides pour faire face aux défis en matière de paix et de sécurité sur le continent.
Le chercheur Oswald Padanou, spécialisé dans les questions militaires africaines.
Bonjour, c'est Nicolas Pinot. Retrouvez-moi tous les jours en direct du Brésil pour le journal de la Coupe du Monde, les résultats, les coulisses et les à-côtés de cet événement planétaire. Matin et soir, la voix de l'Amérique à l'heure brésilienne pendant un mois. Sans oublier notre site internet www.lavoixdelamérique.com et notre page Facebook. La Coupe du Monde, évidemment à suivre sur La Voix de l'Amérique.
Au Mali, les factures de courant vont commencer à devenir plus salées à partir du 1er juillet, n'est-ce pas Gabi ?
Oui, le 1er juillet, le prix de l'électricité va augmenter et les Maliens s'inquiètent déjà de la flambée des prix pendant le mois de Ramadan qui commence dans 2 ou 3 jours. Idriss Fall a recueilli la réaction de notre confrère Issa Kanté du journal arabo-français Assadakat à Bamako.
Ça a été une surprise pour tous les Maliens que subitement, quand on parle d'une augmentation de l'électricité, il y a une augmentation de 30 francs sur le prix de l'électricité dans un pays où les gens cherchent à manger d'abord. Et surtout à l'approche du mois de carême, où les gens sont concentrés par rapport au mois de carême pour chercher le prix d'un seul mois qui est tellement coûteux dans ce pays où tout va mal.
Quelles sont les raisons avancées par le gouvernement pour cette nouvelle grille tarifaire pour l'électricité?
Apparemment, le gouvernement n'a pas pu avancer les raisons pour l'augmentation de ce prix. On nous a fait savoir seulement que à partir de 100 kW que le prix de l'électricité va augmenter dans ce pays-là. Et c'est à partir du 1er juillet qui va coïncider avec 2 ou 3 jours avec le début du Ramadan au Mali. Maintenant, moi, je me pose une question par rapport à ce que la réaction de l'Association des consommateurs du Mali. Moi, je ne sais pas s'ils ont été consultés au préalable pour chercher à savoir pour la fixation de ce prix que le gouvernement vient d'installer. Ça m'a donné à réfléchir où dans un pays où il y a quelques années, où il y a un monsieur du nom d'Alkali Keita qui était dans une commission de régulation du prix de l'énergie qu'on avait appelé CRE, qui avait même tenté de démontrer par A plus B que le prix de l'électrification au Mali était très cher. Mais curieusement, ce monsieur a perdu la vue dans des conditions qui n'ont pas été élucidées jusqu'à ce jour.
Qu'en est-il du service? Est-ce que les coupures de courant ont cessé à Bamako ou pas? On augmente le prix, oui, mais est-ce que le courant arrive?
Le courant, ça fait 2 ou 3 mois pratiquement, on n'a pas de l'électricité. Quand on voit un peu dans une capitale qui est Bamako, par exemple, le jour où on a commencé la Coupe du Monde, à 20h pile, où on a lâché le colombe et qu'au même moment qu'on coupe l'électricité à Bamako, personne n'a compris.
C'était notre confrère Issa Kanté du journal arabo-français Assadakat à Bamako.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
Épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola en Afrique de l'Ouest. Après Médecins sans frontières, c'est au tour de l'Organisation mondiale de la santé de préconiser une mobilisation des pays de la sous-région en faveur d'une réponse intégrée et plus musclée. L'OMS a convoqué la semaine prochaine au Ghana une réunion des ministres de la santé de 11 pays ouest-africains.
L'épidémie actuelle d'Ebola est par conséquent la plus grave en termes de nombre de cas et de décès notifiés et par sa répartition géographique, explique l'OMS dans un communiqué. Camille Gros-Didier a joint à Genève Fadela Chaïb, porte-parole de l'OMS.
Ce qui se passe, c'est que nous entrons maintenant dans le 4e mois depuis le début de cette flambée d'Ebola dans 3 pays d'Afrique de l'Ouest. Malheureusement, tous les jours, nous enregistrons de nouveaux cas et de nouveaux décès. Comme vous savez, Ebola est une maladie extrêmement sérieuse, contagieuse, qui n'a pas de vaccin ni de traitement. Donc les mesures de prévention sont connues, mais peut-être que ces mesures ne sont pas prises comme il faut.
Donc l'OMS parle aujourd'hui d'une crise sous-régionale.
Nous pensons que si nous n'arrivons pas à endiguer les cas d'Ebola dans les trois pays que j'ai cités, les frontières sont assez poreuses dans cette partie du monde et nous devons absolument arrêter la propagation d'Ebola, sinon ça risque de se propager dans d'autres pays de la région. C'est pour ça que l'OMS appelle à une réunion de 2 jours à Accra, au Ghana, du 2 au 3 juillet, afin de voir avec les pays avoisinant les trois pays touchés, le Libéria, le Sierra Leone et la Guinée, quelles sont les mesures à prendre au niveau de tous ces pays, avoir une stratégie commune, parce que comme vous le savez, les virus ne connaissent pas de frontières.
Fadela Chaïb, porte-parole de l'OMS à Genève. Morgane, on reconnaît tous cette musique qui nous fait danser, qui nous fait vibrer.
Samba.
C'est le journal de la Coupe du Monde avec Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi.
Oui, bonsoir Chérubin, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de ce journal de la Coupe du Monde Brésil 2014. Il y a quelques heures, une heure un peu plus, le Ghana a été éliminé de la Coupe du Monde. On retrouve tout de suite notre envoyé spécial Nicolas Pinault à Brasilia. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Bagassi.
Ce n'est pas une surprise, hein. Les Black Stars avaient besoin d'une large victoire pour passer et finalement ils se sont fait battre.
Eh oui, ils ont perdu 2-1 contre le Portugal de Cristiano Ronaldo, également éliminé. Les deux équipes qui en terminent là la compétition. Il faut dire, Bagassi, que la journée avait bien mal commencé pour les Black Stars, puisqu'on a appris l'expulsion de 2 de leurs joueurs pour bagarre et insulte. Il s'agit de Kevin Prince Boateng et surtout de Soule Muntari. Les deux joueurs ont automatiquement été exclus par la fédération ghanéenne. Alors dans ces conditions, bien difficile de préparer un match dans la sérénité. Vous l'avez dit, il fallait une victoire de large ampleur, ça n'a pas été le cas. Et donc les Black Stars qui ne renouvellent pas la belle performance de 2010 où ils avaient atteint les quarts de finale de la compétition.
Et puis le deuxième match opposait les Américains aux Allemands qui sont tous qualifiés maintenant.
Eh oui, les Allemands qui se sont imposés 1-0, pas une large victoire mais suffisant pour s'assurer la première place du groupe. Et les Américains qui ont perdu, c'est un peu le même scénario que contre le Nigeria. Une défaite sans conséquence, on a fait la fête à Washington et un peu partout, puisque les Américains se sont qualifiés pour les huitièmes de finale, où ils rencontreront sans doute la Belgique au prochain tour.
Voilà, je vous rappelle que vous suivez le journal de la Coupe du Monde sur La Voix de l'Amérique et nous avons en direct de Brasilia notre envoyé spécial Nicolas Pinault. Nicolas, tout à l'heure, dans le groupe H, l'Algérie, qui doit, comme la Côte d'Ivoire et le Nigeria, qui doit forcément gagner pour être sûr de se qualifier.
Et oui, ce serait une première historique, Bagassi, pour les Fennecs algériens qui n'ont jamais franchi le premier tour d'une Coupe du Monde. Le scénario est aussi simple pour les Fennecs. Une victoire pour être sûr de passer. Après, il faudrait sortir évidemment la calculette. Donc les Fennecs ont leur destin entre les mains. Mais attention, attention à la Russie qui va vouloir briller évidemment. Et puis dans l'autre rencontre du groupe, un match quasiment sans enjeu entre une Belgique déjà qualifiée et une Corée du Sud qui a peu d'espoir. Il faudra donc surtout surveiller ce match Algérie-Russie et espérer, Bagassi, qu'on ait enfin une deuxième équipe africaine en huitième de finale.
Voilà, Nicolas, vous restez avec nous. Hier, à Alger, tout le monde se prépare pour suivre cette rencontre capitale pour la qualification des Fennecs. Et j'ai donc demandé à notre confrère algérien, Ibrahim Taharout, du journal L'Express, qu'est-ce qu'il pensait de l'équipe algérienne.
Il y a eu comme une déception lors du premier match, mais subitement l'espoir est revenu. Les Algériens maintenant y croient avec cette prestation face à la Corée. C'était un déluge de buts, mais nous avons toujours une petite appréhension par rapport à notre défense qui reste perméable. Mais bon, nous avons une attaque assez percutante, donc nous y croyons effectivement. Pour nous, nous sommes aux portes de l'exploit.
Lors de ce match contre la Corée, à la mi-temps c'était 3-0 et à la reprise, on a senti un peu que les Fennecs avaient relâché un peu.
Oui, ils ont baissé le pied parce que c'était un match plat et c'est normal. Il y a eu un repli vers un léger relâchement. Et puis à 3-0, c'est tout à fait normal que les joueurs ont essayé de respirer un petit peu. Et comme je vous l'ai dit, nous avons un problème en défense. C'est un sérieux problème. Il est très perméable. Et vous avez vu, on a encaissé deux buts un peu pas très. C'était pas des actions vraiment très, très dangereuses. Mais bon, la perméabilité de cette défense. Donc, il y a aussi la fraîcheur physique qui manque à nos joueurs. C'est la déclaration de l'un des principaux joueurs, le numéro 10, Farouli, qui a bien dit bien avant la Coupe du Monde que sur le plan physique, nous sommes un petit peu fatigués. Effectivement, il y a un relâchement physique.
Voilà, c'était donc notre confrère algérien, Ibrahim Taharout, du journal L'Express. On retrouve Nicolas qui est en ligne de Brasilia au Brésil. Nicolas, la nouvelle, l'une des nouvelles du jour, c'est aussi Luis Suarez qui a été suspendu 9 matchs, 4 mois de toute activité liée au football. Il doit aussi payer 100 000 $ d'amende pour avoir mordu Giorgio Chiellini, ce qui fait sourire Chérubin ici.
Un peu plus de 100 000 d'ailleurs, je crois que c'est 112 000.
Voilà, 112 000.
Mais il peut se pouvoir en appel quant à cette amende, mais pas quant à la suspension. C'est ça, Nicolas ?
Oui, tout à fait, mais c'est surtout, cher humain, que la FIFA a voulu se montrer exemplaire. On a souvent critiqué, évidemment, l'instance du foot mondial pour peut-être son manque de sévérité sur des gestes de racisme ou sur des gestes de violence. Là, cette Coupe du Monde, tout le monde a les yeux rivés sur la FIFA et tout le monde voulait une sanction exemplaire. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas la première fois que Suarez mord dans sa carrière. Et là, c'est vraiment hors de toute action de jeu. Il n'y a même pas une attaque avant du défenseur italien. C'est vraiment gratuit. Et il faut se rappeler que le football, ça doit être un sport d'exemple. Et là, Suarez, il a vraiment pas montré l'exemple. Mais maintenant, il faut savoir que cette affaire est prise très très au sérieux à Montevideo par le gouvernement uruguayen. Et on murmure, Chérubin, Morgan et Bagassi, que l'Uruguay pourrait boycotter son 8e de finale. L'Uruguay qui est qualifié, qui s'est qualifié évidemment face à l'Italie. On murmure qu'en signe de solidarité, les Uruguayens pourraient boycotter leur 8e de finale, ce qui serait une première dans l'histoire de la Coupe du Monde.
Et la FIFA a annoncé ce soir que Luis Suarez donc n'est pas autorisé à rester au camp de base de l'Uruguay, donc au Brésil. Et Nicolas, l'autre information, c'est de Yaoundé, où le président Paul Biya veut voir plus clair dans les raisons qui ont poussé à cette débâcle des Lions.
Eh oui, le communiqué est tombé hier soir de la présidence camerounaise, Paul Biya, qui a donné instruction à son premier ministre de lancer des investigations sur la déroute de Yaoundé. Alors, certains y verront évidemment l'intervention du politique dans le sport. Généralement, ça ne fait pas bon ménage. D'autres estiment que des fonds publics ont été alloués, évidemment, pour la préparation des Lions Indomptables et qu'il faut faire toute la lumière. Il faut quand même rappeler que les Camerounais n'ont pas fait grand-chose sur le plan mondial depuis 2002. Dernière victoire en Coupe du Monde, c'était 1-0 contre l'Arabie Saoudite. Alors, on se demande vraiment ce qui va vraiment se passer sur cette investigation. Est-ce un effet d'éclat ou cela va-t-il réellement avoir un impact ? On verra bien.
Oui, et Nicolas, vous restez avec nous. On écoute tout de suite le coup de sifflet de Jules Valentin Ngwe qui revient sur la seule équipe africaine qui est qualifiée jusqu'à présent.
Yes. We celebrate the best African football. No wahala, fair play.
Bonjour. Le Nigeria confirme par une qualification logique en 8e de finale son ascension irrésistible vers le sommet de la hiérarchie africaine de l'heure. Vainqueur de la CAN senior, puis de la Coupe du Monde chez les jeunes, le champion d'Afrique en titre remplit son contrat sans tambour ni trompette. Sa production consistante dans le dernier match de poule contre l'Argentine de Lionel Messi augure d'un futur immédiat prometteur dans la compétition. Les Super Eagles ont présenté une équipe équilibrée sur toutes les lignes, physiquement fraîche, régulière dans l'effort et passant avec bonheur des phases défensives aux phases offensives grâce à un collectif homogène d'une grande vivacité qui a su intégrer parfaitement les valeurs individuelles dont les plus visibles sont la muraille Enyama dans les buts et les feux follets de l'attaque Moussa, Emenike et Odemwinge, très complémentaires dans leur jeu. En s'adaptant et en répliquant au rythme infernal parfois proposé par les vedettes argentines, les Nigériens montrent qu'ils sont prêts à relever n'importe quel défi. Leur adversaire du match des 8e de finale est donc averti. À demain.
À demain, Jules, qui nous présentait son coup de sifflet du jour. Nicolas, un dernier mot très rapidement. Les deux équipes sont sur le terrain, l'Algérie-Russie.
Et oui, on rappelle que les Fennecs ont leur destin entre leurs mains pour se qualifier historiquement pour les huitièmes de finale. Une victoire est impérative.
Voilà, c'était Nicolas Pinault, l'envoyé spécial de la Voix de l'Amérique à la Coupe du Monde au Brésil 2014. Chérubin, c'est tout pour ce journal des sports. Et on se retrouve demain matin pour de nouvelles informations de la Coupe du Monde.
Et espérons-le, une qualification de l'Algérie. Merci Bagassi Koura. Morgane, c'est la fin.
Oui, c'est la fin. On se quitte ainsi. Merci de nous avoir suivis. Lionel Gaïma, la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. C'était Morgane Guiriec.
Et Chérubin Ursil. Nous saluons d'une façon spéciale notre amie Zahra.
À demain.